Dernier point que j'aimerais dire, c'est justement si nous voulons être responsables par rapport à notre qualité de vie au sens large, ou solidaire entre les vivants, comment est-ce qu'on arrive petit à petit à passer à cette idée-là par rapport et à définir qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble en doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que c'est le bien commun, bien difficile aujourd'hui à se mettre d'accord sur le sujet. Alors, il y a plusieurs manières de regarder les choses et là aussi, ça m'a éclairé de regarder un peu comment on se représente finalement ce vivre ensemble et ce cosmos. Donc ça, c'est un auteur plus ancien, hein, Canguilhem, qui remarquait qu'avec l'arrivée de la technoscience, ça correspond à la période où on est sorti de l'image d'un monde ou d'un cosmos stable, sphérique, à l'Aristote, et rajouter un peu de théologie là-dedans, mais là, c'est Aristote, le centre du monde était nous, l'homme. Et quand on va un peu plus loin et qu'on commence à tomber sur Galilée et compagnie qui nous perturbe tout ça, eh bien, on se retrouve avec un cosmos, un espace qui est complètement décentré. Il y a plein de centres. C'est exactement le même problème que le pouvoir autoritaire et puis le réseau Internet avec plein de nœuds. Hein. Voilà, donc on est dans un monde décentré voilà, beaucoup plus sécurisant, mais en tout cas beaucoup plus adapté, malléable. Et alors il dit, ben voilà, c'est intéressant qu'au début, l'homme était au milieu. Et le milieu, c'était un centre, un lieu, un milieu. Maintenant, ben l'homme, il est dans ce monde, et si on parlerait du milieu de l'homme, eh ben ce serait la médiation entre moi, petit être humain, et puis ce cosmos instable, etc., mais qui, dans lequel je me mets, et j'ai des tas de médiations qui me permettent d'y vivre. Et du coup, ce n'est pas exactement la même manière de penser l'arrivée de la technique. La technique qui prend du pouvoir sur nous, est-ce que la technique, c'est quelqu'un qui arrive dans quelque chose qui était stable avant et elle prend calmement l'homme et elle le met de côté parce que c'est elle qui est au centre? D'accord? La technosphère est en train de nous manger la biosphère, par exemple. Ou est-ce qu'on est de nouveau dans ce monde instable? Et dans ce cas-là, la question à se poser, c'est dans toute cette médiation, entre moi, l'être humain, et puis tout ce qui est la biosphère, etc. Maintenant, il y a une technosphère. La biosphère, la technosphère, c'est mélangé. Est-ce que la technique préserve les relations bénéfiques entre moi, l'être humain, et les autres êtres humains, et le vivant, et j'allais dire la maison commune, dirait le pape François. Donc l'idée, c'est pas de maintenir sa place par rapport à la technique, c'est toujours de se demander comment la technique permet cette relation et un milieu de vie hospitalier, pour moi, pour les autres, ensemble. Voilà. Thierry Magnin, par exemple, quand il travaille en 2017, il ne dit pas « je vais vérifier dans le corps humain ou dans le milieu de vie. » Les limites assignées à la technique, c'est ça? Non, c'est « est-ce que la technique favorise ou préserve ce qui est de l'ordre du bien-être ?» Mais au sens profond du terme, hein, des relations. Nous sommes tout le temps entre ces deux manières de raisonner. Par exemple, il m'a fait comprendre que quand on réfléchit sur des techniques de PMA, procréation médicale assistée, quand on a un raisonnement un peu magistériel actuellement qui dit nos techniques prennent la place de l'expérience corporelle et affective du don, et de la relation entre les êtres, et ça va pas, on est encore dans l'idée d'un cosmos stable où la technique vient prendre la place de la relation. On serait dans une pensée, j'allais dire, plus contemporaine, on se dirait, la technique, c'est une médiation bénéfique pour surpasser tel ou tel blocage physiologique ou psychologique. Alors, vous voyez, les modes de fonctionnement déplacent. Il ne faut pas croire que ça arrange tout, parce que le même discours magistériel vous dit d'autres critères de discernement. Il dit, par exemple, il y a une atteinte absolument disproportionnée à l'intégrité du corps humain, ou à l'intégrité des embryons. Ou alors il vous dit, dans la manière dont on travaille en PMA, vraiment on déstabilise trop les réseaux familiaux. Et vous voyez que là, le raisonnement, c'est L'intégrité du corps, de l'embryon, des réseaux familiaux, ce sont plutôt aussi des médiations nécessaires à la vie. Donc, vous voyez, vous avez, mais soyons constants que finalement, nos manières de raisonner, elles ne se supplantent pas. Vous savez, c'est l'échelle. On a toujours toutes les échelles. Voilà. Mais voilà, essayez de repérer quand des modes de raisonnement sont plus adaptés à notre mode de fonctionnement et nous aident à discerner. Finalement, quand on est en train de travailler sur la technique, qui est quelque chose qui a une puissance, qui favorise notre puissance d'adaptabilité, qui nous permet de vivre même quand le milieu est hostile, prenez le sens du milieu au sens le plus large possible. En même temps, quand on cherche aujourd'hui que ce soit viable et non mortifère, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancien raisonnement, ce qu'on appellerait du substantiel, quoi. Est-ce que ça détruit ce que je suis, mon être? Et puis il y a quelque chose d'une attention très forte aujourd'hui, est-ce que ça s'apporte la qualité de mes relations? Et on est toujours dans ces deux-là. Hein. Ça me fait gagner en capacité, mais attention, je s'aborde les relations, ça me fait gagner les relations, mais attention, il y a quelque chose de l'intégrité à maintenir, quoi. On est toujours entre les deux. Voilà, et donc, c'est avec toutes ces notions et cette idée de, voilà, d'une solidarité des vivants qui doivent ne pas porter atteinte ni à d'autres êtres ni à nos relations qu'on assume la responsabilité aujourd'hui d'essayer de rendre le vivre ensemble, cette biosphère pleine de tectosphères qui soit la plus humaine et vivante possible. Ce qu'on pourrait mettre dans la Genèse, la responsabilité de cultiver la terre et de la protéger de manière indissociable. Nous sommes un peu des intendants au service de la création. Le pape François l'a aussi particulièrement rappelé, et rappelé par rapport à une critique qui nous est quelquefois adressée comme chrétiens. Un certain Lin White qui a dit « Les chrétiens, ils ont vraiment lu de la Genèse, que Genèse 1,28, puis ils ont même lu que deux mots dans Genèse 1,28, hein, emplissez la terre et soumettez-la. » Et paf, je tire en disant, vous êtes responsable. Alors évidemment, on voit bien dans l'histoire des chrétiens qu'ils n'ont pas fait que soumettre la terre, mais qu'ils ont essayé de favoriser le vivre ensemble, y compris l'assainissement des campagnes marécageuses autour des monastères médiévaux. Hein. C'était de l'écologie avant la lettre. Mais de fait, avec notre puissance technologique aujourd'hui, notre surexploitation des ressources naturelles, notre concurrence économique, il y a bien un travail, une responsabilité éthique ou politique d'essayer de réguler les choses. Je dis politique parce qu'un certain nombre de gens pensent que toute la manière dont personnellement, individuellement, on peut essayer de réguler les choses ne suffit pas. Il y a aussi quelque chose d'un travail sur les attentes sociétales, justement, pour pouvoir contrer le marché, et qui a sûrement une responsabilité du politique à ce niveau-là. Complexe aujourd'hui, puisque nous sommes dans des sociétés extrêmement plurielles, et tenir compte de tout le monde, c'est-à-dire de tout et de son contraire, est un peu compliqué. Voilà. Avec une attention, je pense, toute particulière à ceux qu'on n'écoute pas d'habitude. Alors, l'éthique ou la politique du Caire dit « faites attention à tous ceux qui sont justement chargés du vivre ensemble et du prendre soin ». Et qu'on oublie de consulter. L'ouvrier communal ou le boueur, on oublie de l'interroger au plan de la politique. Or, lui a un travail tout à fait concret, vivre ensemble. Voilà, l'éthique du Caire va dire des choses comme ça. Diaconia 2013 a dit c'est très très beau d'avoir des pensées sociales, mais écoutons la parole. Alors, dans le langage catholique des pauvres, vous avez compris, de tous ceux qui sont plutôt mis à part de la société, y compris dans leur prise de parole. Le pape François, c'est les périphéries. Vous savez qu'aller aux périphéries chez le pape François, avant de jouer les hôpitaux de campagne, aller dans les périphéries, c'est aller prendre un point de vue différent. Ah, ben d'un seul coup, mon église, ma société, elle n'a plus du tout la même tête quand je la regarde du côté des périphéries. Et ça donne à penser. Hein, voilà. Donc, on a cette idée d'essayer, justement, vous avez compris, de se mettre à la place de l'autre pour imaginer comment le milieu de vie que nous avons ensemble lui est hospitalier. Et l'idée que si tout le monde fait ça, se mettre à la place de l'autre et essayer d'imaginer ce qui lui rend la vie belle, eh ben, notre qualité de vie va collectivement vivre, gagner en qualité. Alors, je voudrais conclure, parce que je vais me faire tirer les oreilles, voilà, sur le fait que cette intelligence qui va nous permettre de définir un peu un bien commun et nous donner quelques points ensemble, ce n'est pas obligatoirement purement conceptuel. Parce que là, je vous ai donné plein d'arguments. Et j'ai appris ça, figurez-vous, quand même d'un expert, d'un universitaire qui s'appelle Gaston Bachelard, que je ne connaissais pas, parce que première moitié du XXe siècle, ce n'était pas gagné, et qui est un auteur complètement bizarre, parce que la moitié de son travail, c'est de travailler sur la méthodologie des sciences, c'est de la technique pas possible, et puis l'autre moitié de son travail, il a travaillé sur l'imaginaire. Et alors, d'un côté imaginaire, c'est assez intéressant, l'idée étant que les deux sont utiles, hein. Il dit, ben voilà, souvent notre imaginaire essaye de gérer ce qui, dans le réel, nous a résisté. Et toute l'ambivalence de la réalité, j'allais dire, il n'y a pas que la technique qui est ambivalente, la réalité aussi. Et il travaille beaucoup sur les rêves, la rêverie éveillée, et il montre toute l'ambivalence de ce que nous vivons. Alors ça donne des choses, par exemple, c'est impressionnant quand vous lisez Bachelard, parce qu'il va vous montrer la rêverie éveillée, la rêverie des hauteurs, je me vois en haut des montagnes, je domine, etc. Ou le rêve du style, je suis en train de rêver, je m'enfonce dans un boyau souterrain, et puis d'un seul coup, ça se met à se resserrer sur moi. Enfin, vous voyez le genre de cauchemar. Vous vous réveillez complètement oppressé. En fait, je gère des choses, évidemment, de la vie réelle derrière ça. Et lire Bachelard, c'est impressionnant parce que vous êtes aussi mal que quand vous réveillez du cauchemar, quand vous êtes au bout de la fin de la page. Il y a une puissance d'écriture qui est remarquable. Quoi qu'il en soit, on se rend compte, et à un moment, il reprend un peu la parole, il dit, ben voilà, la nature, elle est très ambivalente quand on veut agir dessus. Le monde minéral, pour prendre un des xième exemples qu'il prend, ça peut être un monde résistant, le rocher, ou ça peut être une matière molle, la boue. Mais que ce soit résistant ou mou, dans les deux cas, il y a un forgeron ou un potier qui va être obligé de passer d'une manipulation un peu énergique à petit à petit la création. Et ça ne se fait pas en une seconde. Je vais vous juste lire Bachelard une phrase parce que c'est intéressant. La plus grande conquête morale que l'homme ait jamais faite, c'est le marteau ouvrier. Par le marteau ouvrier, la violence qui détruit est transformée en puissance créatrice. De la massue qui tue à la masse qui forge, il y a tout le trajet des instincts à la plus grande moralité. Phrase remarquable, hein, sur ce passage, le même geste est celui qui tue et celui qui va créer, etc. Et ça se fait progressivement. Ça me paraît intéressant parce que si les Noites qui avaient accusé les chrétiens, n'est-ce pas, de dominer le monde, avaient saisi dans le texte de la création, ben on n'y arrive que très progressivement. Et qu'effectivement, au début, ce n'est pas gagné. Il n'y a pas que les Noailles qui a dit ça. Vénin nous montre les ambiguïtés. André Vénin, hein, comme exégète de ce qui s'écrit dans la Bible, on n'est pas opérationnel dès le départ. Il a bien fallu, à partir de... travailler la terre, etc. Il a bien fallu passer petit à petit, ben, avec un certain nombre d'interdits, justement, le pseudo... paradis où je maîtrise la vie, où j'ai la connaissance sans limite, petit à petit j'apprends et j'essaye d'assumer de manière un peu plus responsable toute l'ambivalence inhérente au travail de la terre. Ça traite en même temps de la procréation, hein, les premiers textes de la Genèse. Puis vous savez que les relations, c'est pas gagné, hein, Abel et Caïn, etc. Finalement, c'est tout un chemin progressif, un travail d'humanisation de nos techniques. Si on parle de ça aujourd'hui, bah, qu'il va se reprendre à tous les âges de l'histoire humaine. À tous les âges, on a des nouvelles techniques et il va falloir humaniser ce qu'on en fait. Un des problèmes aujourd'hui de nos nouveaux modes de communication, de nos nouveaux modes de gouvernance, dont je n'ai pas parlé, hein, mais bon, ça pourrait aussi beaucoup se discuter, ça, les modes de gouvernance dans l'entreprise, etc., bah, c'est que ça bouge et qu'il va falloir les moraliser, les humaniser, voire les christianiser, et que ça ne se fait pas tout de suite, et qu'au fil de l'histoire, on a en permanence à retravailler et à passer de la massue au marteau qui crée, hein, que nous avait décrit Bachelard. Et donc, finalement, eh bien, ce travail d'humanisation, c'est finalement ce que les chrétiens vivent comme un chemin d'alliance. Donc, vous voyez, ce matin-là, ben, il y a des fois, dans tout ce que je vous ai raconté, j'ai fait recours à des principes de justice, respect de la vie, respect de la dignité humaine, des relations. On aurait pu chercher, j'aurais pu citer, me fonder sur la doctrine sociale de l'Église, mais c'est aussi des règles de philosophie politique. Il y a des fois, j'ai fait appel aux sciences humaines ou à la manière dont la philosophie des vivants l'interprète. Bon. Et j'ai un certain nombre de critères. Mais en même temps, si je ne suis pas capable d'agir tellement je suis écrasé, ça ne va pas. Et donc, là, l'appel du mystère de la foi, la figure du Christ, peut me faire ressortir le critère de la charité, me donner confiance que je suis capable d'articuler justice, charité, et d'avancer. Et cette tension entre justice et charité, voilà, que j'essaye de maintenir. Et puis, pour essayer de discerner, eh bien, faut que je veux vraiment être un peu créatif, il ne faut pas que j'hésite à aller chercher là où je n'y aurais pas pensé. C'est l'expérience des périphéries au sens large, c'est les nouveaux possibles. Alors j'ai parlé de l'imaginaire de Bachelard, il aurait fallu aussi faire tout le recours aux traditions, mais un retour existentiel, quand j'entre dans le monde du texte par Ricoeur, c'est plus connu, donc je n'ai pas fait. Il faut aller chercher aussi tous ces moyens qui ne sont pas uniquement conceptuels, et grâce à ça, bah, petit à petit, nous devrions réussir à réajuster, c'est-à-dire tout simplement à ajuster au fil du temps notre rapport à la technique. Et ça joue sur notre manière d'éduquer. Aujourd'hui, quand on essaye d'éduquer des jeunes à la technique, ben, on ne leur donne pas la solution clé du rapport à la technique, on les met juste à jour de là où on en est de notre tentative de nous y ajuster. Hein, vous voyez, là, on en sac, ça foire, ça c'est pas bon, on en est là. Puis à vous de continuer à créer avec nous. Qu'est-ce qui va être le rapport ajusté à ces technologies que souvent ils maîtrisent mieux que les générations plus anciennes qui, au bout d'un moment, on aura le bol de la technologie qui change tous les 3 ans. Voilà. Mais voilà, on s'entraide les uns et les autres sur ce chemin qui est aussi une des modalités de notre chemin d'alliance avec Dieu et avec nos frères.